Bonjour à tous. Voilà, je suis Elisabeth Boncourt. C'est avec moi que vous allez parcourir le champ disciplinaire de ce qu'on appelle l'anthropologie chrétienne. Et dans ce premier cours introductif, j'aimerais définir avec vous ce qu'on appelle anthropologie chrétienne, circonscrire son champ d'étude et voir quelle est la tâche propre de cette étude. Avec trois questions qui me semblent être importantes. Premièrement, qu'est-ce qui distingue l'anthropologie chrétienne de l'anthropologie philosophique? Est-ce qu'elle en est une espèce ou bien est-ce qu'elle est fondamentalement différente de cette anthropologie philosophique? Et est-ce qu'il y a encore une pertinence aujourd'hui à parler d'anthropologie chrétienne dans le monde tel qu'il est? Et dans le monde tel que nous sommes appelés à vivre. D'abord, un premier rappel, hein, l'anthropologie, le terme anthropologie est fondé, composé à partir de deux mots grecs, l'anthropos qui signifie l'homme et logos qui signifie le verbe au sens de parole et ensuite qui signifiera discours. Science, études. Donc vous voyez, l'anthropologie, c'est l'étude de l'homme. Donc mon premier point, ce serait de dégager ce qu'est la spécificité de l'anthropologie chrétienne. L'anthropologie philosophique est fondée sur la rationalité humaine et elle étudie l'humanité dans ses diverses manifestations mondaines. En ce sens, l'anthropologie philosophique ne part que de la pure rationalité et étudie l'homme dans ses dimensions culturelles, sociales, comme étant des manifestations de cette rationalité. En revanche, l'anthropologie chrétienne part de l'idée d'un homme dont la destinée est surnaturelle. Ce qui veut dire qu'elle n'étudie pas seulement l'homme en lui-même, dans son rapport au monde, dans ses manifestations spirituelles, mais aussi dans sa dimension d'ouverture à la transcendance divine, dont l'unique médiateur est le Verbe incarné, la personne du Christ. Et il est très important de bien comprendre ce point. L'anthropologie chrétienne fonde tous ses axes de pensée sur la personne du Christ, qui concentre en lui tous les mystères de l'homme. Le Christ, c'est notre médiateur, c'est celui aussi qui vient nous révéler, parce qu'il s'est incarné, les mystères divins. En lui, par lui et avec lui, nous pouvons saisir donc le sens de la création de l'homme, création qui est faite à l'image de Dieu. Puis le salut offert dans sa personne après le péché, l'appel à devenir les héritiers du Christ. Vous avez ça en Romains 8, 17, enfant et donc héritier, hérité de Dieu, co-héritier du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. Donc nous sommes appelés à devenir ses héritiers, ses co-héritiers, et aussi à partager sa gloire. À partager sa gloire, excusez-moi. C'est ce qui est dit en Jean 17, 22, 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'il soit parfait dans l'unité et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc cette dimension christologique donne à chaque fidèle de pouvoir retracer un parcours intérieur qui va de la considération de son être créé à l'image de Dieu, terni par le péché mais redressé et sauvé par la kénose du Christ, et appelé à vivre de la vie même de Dieu. On a là, vous voyez, tout un parcours. La kénose, qu'est-ce que c'est? C'est l'abaissement de la personne divine du Verbe qui, par amour pour nous, accepte de s'unir à un corps et de mourir sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Cela permet donc de comprendre pourquoi cette anthropologie fait de chaque être humain une personne dont la dignité intrinsèque ne supporte aucune blessure ni aliénation. C'est sur ce sur quoi insiste notamment la constitution pastorale Gaudium et Spes sur l'Église dans le monde de ce temps, issue du deuxième concile œcuménique de Vatican II, promulgué par Paul VI comme évêque de Rome le 8 décembre 1965, le dernier jour du concile. Cette inaliénable dignité doit être respectée dans toutes les dimensions de l'existence humaine, dans la famille, dans la sphère sociale, dans la sphère politique, dans la sphère économique et dans le travail. Le terme d'anthropologie chrétienne apparaît avec Gaudium et Spes. Néanmoins, ça ne veut pas dire, bien sûr, que la tradition chrétienne n'a pas parlé de l'homme avant le Concile Vatican II. La tradition chrétienne est riche de profondes réflexions sur l'homme. En effet, parler de Dieu, c'est toujours en même temps parler de l'homme comme sa plus noble et sa plus chère créature. En parlant de Dieu et en parlant à Dieu, l'homme part de lui-même en tant que créature et enfant de Dieu. Et ce Dieu-ci, bien sûr, ce n'est pas le Dieu des philosophes, c'est-à-dire un Dieu trouvé pour les besoins d'un système philosophique ou cosmologique, à l'instar, par exemple, d'un grand architecte, hein, le grand architecte de Voltaire, par exemple. Mais, comme le dit Pascal dans son merveilleux mémorial, le Dieu chrétien, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, non des philosophes et des savants. C'est un Dieu qui se révèle aux patriarches, qui les guide, qui les aime, un Dieu qui établit une alliance avec son peuple. Un Dieu, pour dire les choses simplement mais essentiellement, qui rentre en relation, qui appelle l'homme en respectant la liberté de sa réponse, un Dieu qui s'intéresse à l'homme gratuitement, comme à la meilleure et à la plus chère de ses créatures. Un homme dont la petitesse par rapport au reste de la création est entièrement balayée par son statut privilégié d'avoir été créé à l'image de Dieu. Et je vous lis ce merveilleux psaume 8 qui exalte vraiment cette noblesse de la créature humaine et qui montre que, en fait, Dieu s'intéresse à l'homme, privilégie parmi toute la création la nature humaine. Voilà ce que dit le psaume 8. Yahvé, notre Seigneur, qu'il est puissant ton nom par toute la terre, lui qui redit ta majesté plus haute que les cieux. Par la bouche des enfants, des tout-petits, tu l'établis, lieu fort, à cause de tes adversaires, pour réduire l'ennemi et le rebelle. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est donc le mortel, que tu t'en souviennes, le fils d'Adam, que tu le veuilles visiter. À peine le fis-tu moindre qu'un dieu, tu le couronnes de gloire et de beauté. Pour qu'il domine sur l'œuvre de tes mains, tout fut mis par toi sous ses pieds, brebis et bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, l'oiseau du ciel et les poissons de la mer, quand il va par les sentiers des mers. Yahvé, notre Seigneur, qu'il est puissant ton nom par toute la terre. L'homme est donc, pour reprendre le titre d'un livre de Bernard Sesbouet, la merveille de Dieu. Et vous voyez que dans ce psaume, David à la fois rend louange à Dieu et rend louange à un Dieu qui s'intéresse à l'homme et qui, pour lequel l'homme est la plus grande des merveilles et à laquelle il a donné la responsabilité de veiller sur la créature et sur la création. Nous y reviendrons bien évidemment plus tard. Alors, deuxièmement, que devient l'anthropologie dans notre monde postmoderne ? On appelle l'époque postmoderne notre époque même, c'est-à-dire l'époque qui suit la période de la fin du XXe siècle qui a été délimitée par ce qu'on a appelé les philosophes de la déconstruction. C'est-à-dire les philosophes de la déconstruction de la philosophie moderne, occidentale et traditionnelle. Que devient l'homme envisagé sous l'angle du christianisme aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est-à-dire l'ère de la sécularisation, de la laïcisation de nos institutions et de modes de vie, eh bien, cette ère-là signe l'éclipse du sacré, l'éviction de la transcendance au sein de notre vie. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère véritablement délétère du relativisme, où, par exemple, comme le dit Finkielkraut, une paire de bottes vaut un Shakespeare. C'est-à-dire où n'importe quel mode de spiritualité, par exemple, entend se hisser au rang de plus de 2000 ans de tradition chrétienne, la relativisant sans même avoir fait l'effort d'en comprendre son message et sa portée. Donc ce qu'on constate dans le monde de la culture, où on met sur le même plan un chanteur de R&B avec Mozart, où on met sur le même plan la parole d'un spécialiste avec l'opinion d'un quidam, eh bien, on met sur le même plan certaines vagues spirituelles, certaines modes spirituels, avec une tradition de plus de 2000 ans, une tradition qui, je vous assure, est d'une profondeur remarquable. Aujourd'hui, c'est aussi l'ère de la montée de nos égoïsmes, du repli des individus sur eux, de l'impasse des relations humano-humaines et bien entendu humano-divines. Nos cœurs sont endurcis, fermés à l'appel de celui qui pourtant parle inlassablement. Mais il y a plus grave que ce simple constat sociologique, et me direz-vous, assez centré sur l'Occident, puisque je suppose que dans d'autres pays, la situation n'est pas aussi grave. Mais je parle d'où je suis et pour vous qui êtes ici. Bien évidemment, il faut nuancer cet aspect quelque peu tragique de notre monde. Il y a encore de belles choses dans ce monde et on le voit en ce moment. On le voit, le soutien que l'on donne au personnel soignant. On voit des soignants aller au front, donner de leur vie pour soigner et guérir. On voit encore des gestes de solidarité, des actes de bonté. Mais il est vrai que il y a quand même une ambiance assez morose qui prend la forme du relativisme et de l'individualisme. À chacun son point de vue et chacun pour soi. Alors la question c'est, que devient l'anthropologie chrétienne dans un monde qui non seulement ne croit plus en Dieu, ne croit plus en Christ, mais ne croit même plus en l'homme. Petit a, naissance et mort de l'anthropologie philosophique. L'anthropologie philosophique n'est pas née, tout comme l'anthropologie chrétienne d'ailleurs, en même temps que la philosophie. Dans les classifications traditionnelles de la philosophie, l'anthropologie comme science distincte n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a la logique, la physique et l'éthique, ça c'est l'ordre donné par les stoïciens, ou bien la métaphysique ou philosophie première, la physique, les mathématiques Et d'autre part, l'éthique, la politique, la poétique, la rhétorique, ça c'est l'ordre qui est donné par Aristote. Alors, est-ce à dire que la philosophie ancienne ne s'occupe pas de l'homme ? Si, bien sûr que oui, mais jamais de l'homme seulement ou en tant que tel. L'homme n'est pas considéré, dans la philosophie antique, comme un objet d'étude à part. Il l'est comme un être vivant, on l'étudie par exemple dans les traités de biologie, ou dans les traités de physique, ou dans les traités de l'âme. Il l'est comme être qui cherche le bonheur, et donc il fait partie des préoccupations de l'éthique et de la politique. Donc, dans la philosophie antique, l'étude de l'homme est dispersée dans d'autres domaines. Si vous voulez, il n'y a pas une étude spécifique qui se rapporte à l'homme. Du coup, les premiers traités de l'homme sont tardifs et ils trouvent leur origine dans les commentaires de la Genèse. Par exemple, les commentaires d'Augustin. Puis ils se développent à partir du XIIe siècle et atteignent leur apogée à la Renaissance et au XVIIe siècle. Ils se développent d'autant mieux que Dieu, paradoxalement, est peu à peu exclu de la science. Si bien que la question « qu'est-ce que l'homme ?» devient la question par laquelle Kant, au tournant du XVIIIe et du XIXe siècle, résume le projet de la philosophie de la modernité. Voilà ce qu'il dit dans sa logique. Le domaine de la philosophie se ramène aux questions suivantes. Que puis-je savoir ? Deuxième question, que dois-je faire ? Troisième question, que m'est-il permis d'espérer ? Quatrième question, qu'est-ce que l'homme ? À la première question répond la métaphysique, à la seconde la morale, à la troisième la religion, à la quatrième l'anthropologie. Mais au fond, on pourrait tout ramener à l'anthropologie, puisque les trois premières questions se rapportent à la dernière. On passe avec Kant d'une situation où l'homme est toujours pensé par rapport à autre chose ou dans autre chose, par rapport à Dieu, dans la création ou la nature, par rapport aux autres animaux, à une situation où il est pensé comme absolu. Absolu, c'est-à-dire séparé. Si bien que l'anthropologie va remplacer ce qui était autrefois l'objet de la métaphysique, à savoir l'étude des êtres séparés, l'étude des êtres qui étaient au-delà du monde, les sphères célestes et la divinité. Si la philosophie n'a plus rien à dire sur la nature, puisque c'est la science qui s'en occupe, ni sur Dieu, puisque c'est la théologie qui s'en occupe, il ne reste à la philosophie que l'homme. Et la question « qu'est-ce que l'homme ?» circonscrit le domaine de la philosophie. L'anthropologie a remplacé la métaphysique. C'est l'anthropologie qui devient la philosophie première. Alors, petite définition de la métaphysique. On appelle métaphysique l'étude des premiers fondements et des premières causes des êtres. Ces premiers fondements et ces premières causes n'étant pas eux-mêmes mondains, c'est-à-dire qu'ils sont des principes qui se trouvent au-delà de l'étude de la physique. C'est ce que Aristote appelait la philosophie première. Et le plus grand objet de la métaphysique pour Aristote, c'est bien évidemment Dieu, non pas Dieu, le Dieu chrétien, mais le Dieu pensé, comme premier principe de toute chose. Vous voyez, c'est donc très tard que la science de l'homme se constitue comme telle et devient la philosophie tout entière. La promotion de l'anthropologie au rang de philosophie première coïncide donc avec le renvoi de la métaphysique hors du champ philosophique légitime, puisque avec Kant, on lui porte un discrédit fondamental en disant que tout ce qui est de l'ordre de la métaphysique n'est pas connaissable parce qu'elle ce n'est pas l'objet d'une expérience possible, Je vous donne un exemple. L'âme et son immortalité n'est pas objet d'expérience, hein, d'expérience, c'est-à-dire d'intuition empirique. On ne peut pas la toucher, on ne peut pas la palper. Donc, en fait, avec Kant, on va dire que le champ de la métaphysique est un champ extra-scientifique et qu'elle est vouée à errer et qu'il vaut mieux la faire disparaître de nos études. Du coup, c'est l'anthropologie qui va se substituer à la métaphysique et constituer l'ensemble des efforts de la philosophie moderne. C'est l'achèvement d'un processus qui commence à la Renaissance et est en lien avec l'humanisme. Alors, on aurait pu s'attendre alors à voir se développer des sommes systématiques sur l'homme. Mais paradoxalement, c'est le contraire qui s'est produit. L'anthropologie chrétienne débouche progressivement sur une dissolution du concept de l'homme au XIXe siècle et plus encore au XXe siècle, au point que certains philosophes ont pu parler de mort de l'homme sous l'effet du développement des sciences humaines. J'entends par dissolution du concept de l'homme l'idée qu'en fait, alors un peu rapidement, mais on pourra en reparler sur Zoom si vous le souhaitez, il y a eu des coups portés par Nietzsche en particulier à Dieu, proclamant la mort de Dieu, et progressivement, en suivant cette mort de Dieu, l'homme lui-même n'est plus devenu objet d'étude. C'est la dissolution du concept d'homme comme dissolution d'un concept unifié, comme dissolution d'une étude de l'humanité qui aurait des traits spécifiques qui sont non modifiable. Et c'est Michel Foucault, donc je reviens à ce que je disais, qui parle de la mort de l'homme à la fin de son livre « Les mots et les choses ». Et il considère que l'anthropologie qui glorifie l'homme est un nouveau dogmatisme et qu'elle est vouée à disparaître. Un dogmatisme, c'est-à-dire que ce serait une discipline qui est totalement fondée. C'est sur des présupposés, voire des préjugés qui ne sont absolument pas remis en cause et qu'il faut absolument déconstruire afin de montrer que l'homme, finalement, n'est pas ce qu'on a bien voulu entendre jusqu'à présent, n'est pas un concept unifié et qu'il n'y a certainement pas de nature humaine universelle. Alors, quelle est la solution aux yeux de Foucault, voire le remède? Bien tout simplement, détruire l'anthropologie, accélérer la mort de l'homme, comme Nietzsche d'ailleurs avait prétendu accélérer la mort de Dieu, mais soit dit entre nous, il semble que Nietzsche soit mort le premier. Hein? Fin 1971, dans un texte qu'on trouve dans les 10 écrits de Michel Foucault, celui-ci parle de son, je cite, « entreprise de destruction du sujet comme pseudo-souverain », c'est-à-dire par l'attaque culturelle. Et un peu plus loin, il parle du déracinement de l'anthropologie comme tâche de la pensée contemporaine. En ce sens, Foucault se définit comme un philosophe anti-humanisme. L'humanisme est en effet lié à l'anthropologie. Il est l'expression de cette philosophie qui prend l'homme pour fondement et finalité. Voilà ce que dit Foucault dans « À la fin des mots et des choses ». Une chose en tout cas est certaine, c'est que l'homme n'est pas le plus vieux problème ni le plus constant qui se soit posé au savoir humain. En prenant une chronologie relativement courte et un découpage géographique restreint, la culture européenne depuis le XVIe siècle, on peut être sûr que l'homme y est une invention récente. Ce n'est pas autour de lui et de ses secrets que, longtemps, obscurément, le savoir a rôdé. L'homme est une invention dont l'archéologie de notre pensée montre ainsi aisément la date récente. Et peut-être la fin prochaine. Si ces dispositions fondamentales du savoir qui ont laissé apparaître la figure de l'homme venaient à disparaître comme elles sont apparues, si elles basculaient, comme le fit au tournant du XVIIIe siècle, le sol de la pensée classique, alors on peut bien parler que l'homme s'effacerait, comme à la limite de la mer, un visage sur le sable. Cette dernière phrase est très connue, hein. L'homme, c'est ce visage dessiné sur le sable et que la mer balaye de ses flots. Avec cette image finale, on voit bien comment Foucault poursuit l'œuvre de Nietzsche, qui dans le Gai Savoir, au paragraphe 125, compare la mort de Dieu à l'effacement de tout horizon. Autant dire que c'est une catastrophe. Foucault poursuit en évoquant l'effacement subséquent du visage de l'homme, ce que n'ont pas vu les humanistes tels Sartre, qui pensent qu'il n'y a pas d'homme tant que Dieu existe et que la négation de Dieu permet à l'homme d'accéder à son règne. Hein? Rappelez-vous, c'est dans l'existentialisme est un humanisme de Sartre ou bien dans l'être et le néant, Sartre a cette thèse fondamentale selon laquelle, puisque Dieu est mort, l'homme va enfin pouvoir réaliser sa nature propre, va enfin pouvoir déterminer sans que rien ne lui soit imposé par une volonté divine ou par l'idée d'une nature humaine. Et donc, c'est à chaque existant de déterminer l'homme qu'il veut être. Mais en réalité, même cela, ce n'est pas cohérent, puisqu'en fait, la mort de Dieu annoncée par Nietzsche conduit tout le droit à la mort de l'homme. Hein? Chez les Nietzschéens, ce n'est pas du tout le même raisonnement. L'homme et Dieu vont ensemble. Si Dieu meurt, l'homme doit disparaître comme tel ou se faire autre, se surmonter lui-même. Par exemple, c'est ce que Nietzsche appelle le surhomme, lorsqu'il dit « l'homme est quelque chose qui doit être surmonté ». On voit bien l'implication entre la mort de Dieu et la mort de l'homme. Foucault explique bien cet élément qui échappe souvent aux apprentis nietzschéens. Voilà ce qu'il dit. « Peut-être faudrait-il voir le premier effort de ce déracinement de l'anthropologie auquel sans doute est vouée la pensée contemporaine dans l'expérience de Nietzsche, à travers une critique philologique, à travers une certaine forme de biologisme. Nietzsche a retrouvé le point où l'homme et Dieu s'appartiennent l'un l'autre, où la mort du second est synonyme de la disparition du premier, et où la promesse du surhomme signifie d'abord et avant tout l'imminence de la mort de l'homme. En quoi Nietzsche, nous proposant ce futur à la fois comme échéance et comme tâche, marque le seuil à partir duquel la philosophie contemporaine peut recommencer à penser. Il continuera sans doute longtemps à surplomber sur son cheminement. De nos jours, on ne peut penser que dans le vide que l'homme, on ne peut penser que dans le vide de l'homme disparu, car ce vide ne creuse pas un manque. Il ne prescrit pas une lacune à combler. Il n'est rien de plus, rien de moins, que le dépli d'un espace où il est enfin à nouveau possible de penser. Il s'agit donc, finalement, de désanthropologiser la pensée. Non pas refonder l'anthropologie sur de nouvelles bases, mais cesser de mettre l'homme au centre, après y avoir mis Dieu. L'anti-humanisme de Foucault est donc radical comme celui de Nietzsche. Comment, dans cette situation qui est celle qui est la situation aujourd'hui en philosophie et donc qui a des répercussions sur le monde, comment continuer de parler d'une science qui se nommerait anthropologie chrétienne alors que ses deux principaux fondements, Dieu et l'homme, sont morts, l'un avec Nietzsche et les autres maîtres du soupçon, hein, Freud et Marx, et l'autre avec Foucault et ses émules. Nous devons signer là notre premier acte intempestif de résistance et affirmer que ni Dieu ni l'homme ne sont morts. Ils sont peut-être passés en désuétude pour une intelligentsia contemporaine. Mais si nous repartons de nos présupposés, à savoir que le Dieu chrétien est un Dieu de relations, qui se révèle dans l'histoire comme dans notre intimité, il faut vaille que vaille maintenir un propos chrétien sur l'homme. Mais Foucault se contente d'une annonce. En voici les conséquences. Petit b, la disparition de l'exception humaine, les gender studies, l'antispécisme et le transhumanisme. Voici que nous sommes parvenus à ce point. Dieu est mort, Nietzsche, Marx et Freud qui avaient prédit sa mort sont morts aussi. L'homme et Foucault sont morts, mais bientôt le genre humain disparaîtra à son tour. Et c'est à nous de rester vivants. Je vais vous expliquer pourquoi le genre humain est en danger. C'est qu'il y a actuellement trois théories qui grèvent aujourd'hui notre pensée et mettent à mal l'impératif kantien du respect de la dignité humaine. Je vous parle de ça parce que Kant était fils de pasteur et que même s'il a rejeté la métaphysique et Dieu en dehors du domaine de la pensée philosophique, il avait quand même une très haute dignité de la personne humaine. Et Kant formulait ainsi l'impératif catégorique de la moralité, c'est l'une de ses trois formulations, agit uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la maxime de mon action, c'est le principe subjectif de mon vouloir. Et pour que je sache si elle peut devenir une loi pour tous les hommes, je dois me demander si cette maxime peut être appliquée par tous. Par exemple, si je mens et si je me fais pour maxime de mentir, est-ce que je peux vouloir le mensonge comme loi universelle de la nature, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que mentir à quelqu'un, c'est respecter sa dignité, la dignité de la personne, c'est-à-dire sa liberté et la foi qu'il donne en ma parole? Est-ce que ce n'est pas un acte de tromperie? Bien, je peux vous prendre d'autres exemples. L'exemple du meurtre, l'exemple des violences, etc. Est-ce que à chaque fois, je peux vouloir cela comme loi universelle et dire que la maxime que je me donne respecte la dignité humaine? Cet impératif de la moralité, dit Kant, est catégorique en ce qu'il ne tolère aucune exception. Et il met au centre le respect de la dignité absolue, irréfragable, de la personne humaine. Ce qui doit motiver nos actions, c'est toujours ce respect, la dignité de la personne humaine. Or, que faisons-nous aujourd'hui? Il me semble que c'est bien cette dignité qui est compromise. Premièrement, par ce qu'on appelle les gender studies, dont vous avez certainement entendu parler. L'idée centrale de ces études, c'est l'impossibilité de réduire l'individu à son sexe biologique. La nature sexuée d'une personne n'est pas une donnée naturelle, mais une construction sociale. C'est la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient ». Bon, et si dans ses débuts, ces études avaient entre autres pour but d'émanciper la femme de la domination masculine afin de la rétablir à un niveau d'égalité avec l'homme dans ses droits, et si en cela, cette idée-là est légitime, les gender studies ont vite dégénéré en niant tout bonnement la nature sexuée de l'être humain. L'identité du genre ne peut pas se fonder sur la bipolarité naturelle entre le féminin et le masculin. Voyez ? C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a un sexe masculin et un sexe féminin, qu'il y aurait pour autant un genre féminin et un genre masculin. La biologie est ici pour eux, pour ceux qui étudient ce domaine-là, n'est pas du tout déterminante. Au contraire, le genre est une construction sociale. Chaque société imposant ses normes pour délimiter le masculin et le féminin. Ce qui favorise l'hétérosexualité au détriment d'autres pratiques sexuelles qui s'incarnent dans le mouvement LGBT. Bref, c'est le genre qui construit le sexe. S'il existe des différences biologiques, elles ne sont pas en elles-mêmes significatives. C'est le genre et donc la construction sociale qui assigne un sens aux différences sexuelles. Et à partir de là, si dans ma propre histoire, ma propre histoire fait en sorte que je me sente davantage homme que femme en dépit de mon sexe biologique et de sa destination naturelle, à ce moment-là, il n'y a plus de référence fondée sur la bipolarité sexuelle et sur la création de l'homme et de la femme. Bon, c'est un résumé extrêmement rapide de ces études, mais l'essentiel ici, c'est que vous compreniez qu'elles vont totalement à l'encontre de l'idée de la création de l'homme. Totalement à l'encontre de la création de l'idée de l'homme, parce que l'homme, on le verra dans le chapitre suivant, n'est complet que dans son autre, c'est-à-dire dans le rapport à l'autre féminin. Les deux ne sont appelés à faire qu'un, mais parce qu'ils sont deux. Et donc, il y a fondamentalement, dans le christianisme, l'idée qu'il y a une complémentarité homme-femme qui réalise un projet divin. Et cela, les gender studies le mettent à mal. Mais ce n'est pas, deuxième point, ce n'est pas seulement la différence sexuelle qui est l'objet d'une totale déconstruction. En même temps, l'une des philosophies dominantes de notre époque est de nier l'exception humaine. C'est-à-dire l'idée, vous voyez, on verra ça aussi au chapitre suivant, l'idée que l'homme est une exception de la nature, qu'il en est comme le sommet, ou qu'il n'est pas réductible aux autres êtres vivants. Cette idée de négation d'exception humaine est notamment défendue par un philosophe qui enseigne à l'EHESS, Jean-Marie Schaeffer, qui a écrit en 2007 « La fin de l'exception humaine » ou « La fin de l'homme comme être surnaturel, capable de transcendance, pensé à partir des autres êtres ». Ici, c'est le courant dit antispéciste qui est en jeu. En résumé, ce courant nie que tout ce que l'on attribue traditionnellement à l'homme fasse de l'animal humain une exception par rapport aux autres. La parole, la raison, l'expérience et le devancement de la mort, le deuil, la culture, l'institution, la technique, le vêtement, la capacité à mentir, à dissimuler, mais aussi la capacité à donner gratuitement, le rire, les pleurs, le respect, tout ce qui caractérise et qui singularise l'homme. Ainsi, alors que toute la philosophie jusqu'alors ne reconnaissait des droits qu'aux êtres humains, il y a aujourd'hui une revendication de l'extension du domaine de la moralité et de la juridicité aux animaux. Il ne s'agit pas seulement de considérer la souffrance animale, ce qui me semble légitime, mais un saut est franchi, qui tend à réduire in fine la valeur de l'homme à celle de l'animal. Il y aurait comme une extension du concept de personne à l'animal. Les animaux seraient, au même titre que les humains, des personnes à part entière. Donc, on voit ça dans certaines études montrant à viser, par exemple, que les grands singes, les bonobos, ont des des signes et des manifestations d'une certaine culture. On voit ça aussi dans un livre qui s'appelle Zoopolis et qui montre que il faudrait instituer des droits pour les animaux. Je vous répète, ce qui va beaucoup plus loin que le respect du bien-être animal. C'est quand même un déplacement de la valeur juridique qui n'a été jusque pour le moment, pardon, valable que pour les hommes et qui serait étendu à l'animal. Vous voyez, et nous sommes là, encore une fois, loin, très très loin de l'idée d'un homme, l'idée chrétienne d'un homme sommet de la création divine. Et troisième courant extrêmement délétère lui aussi, c'est le transhumanisme, qui est un courant qui pourrait se définir comme l'idéologie de l'homme augmenté. L'homme augmenté, c'est celui qui verrait son vieillissement et sa mort retardée, voire annulée. Je vous cite un texte de Bernard Sesbouet, je crois. Mais peu importe. Certains scientifiques nous annoncent la naissance d'un monde nouveau, d'un monde humain, pardon, aux possibilités radicalement nouvelles en raison des progrès du NBIC. Nanotechnologie, science de l'infiniment petit, biotechnologie, informatique, technologie de l'information, et cognitique, technologie du cerveau et science de la connaissance. Les progrès de ces disciplines permettraient d'entrevoir à brève échéance, un recul prodigieux de la mort permettant de vivre 1000 ans pour aboutir à la mort de la mort. L'humanité s'ouvrira à une vie transhumaine, étant donné que nos limites biologiques actuelles sont franchies. Comme le dit Fukuyama, nous en aurons définitivement fini avec l'histoire humaine parce que nous aurons aboli les êtres humains en tant que tels. Alors commencera une nouvelle histoire au-delà de l'humain. Nous aurons aboli les êtres humains en tant que tels. Voilà le point gravissime. La prédiction n'est pas pour dans longtemps, hein, c'est pour les années 2030-2050, où on va tâcher de supprimer la maladie, le vieillissement et même la mort. Il sera question d'hybridation entre l'homme et l'animal, et cette hybridation ne posera plus de difficultés déontologiques. Étant donné tout ce qu'on vient de dire précédemment, la reproduction biologique sera remplacée par une reproduction technologique généralisée, c'est la PMA, la GPA. Et grâce aux nanotechnologies et au génie génétique, tous les organes déficients pourront être remplacés par des organes artificiellement reconstruits. On trouve les racines du transhumanisme au XVIIe siècle, avec des philosophes tels que Descartes, pour lesquels la technique doit nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, ou Francis Bacon, dont je vais vous lire dans un instant des textes éclairants. Mais vous voyez bien qu'en fait, tout ce qui fait la fragilité de l'homme, sa finitude, ça, le fait qu'il finalement il soit une créature marquée par le péché, vouée à mourir, mais aussi vouée à souffrir. Cela est inéluctable et cela fait partie de l'expérience fondamentale de l'homme. Tout cela, la science entend le balayer pour construire un homme qui n'en sera plus un. Un homme à mi-chemin entre la biologie et la technologie. Pourquoi je vous dis que ça commence au XVIIe siècle? Parce que au XVIIe siècle, Descartes sépare absolument l'âme du corps. C'est ce qu'on verra dans les prochains cours. Il parle d'un dualisme métaphysique entre l'âme et le corps. Si bien que l'âme n'ayant plus aucune union avec le corps, n'étant pas là pour animer le corps, et le corps n'étant pas là pour faire penser l'âme, pour donner à l'âme l'occasion de penser, le corps est réduit à un simple mécanisme, à un mécanisme comparable, par exemple, aux horloges, aux fontaines animées à l'époque de Descartes, fontaines qui fonctionnent toutes seules. Bien que le corps est finalement réduit à un ensemble de mécanismes. Et en lui-même, il n'a plus beaucoup de valeur, puisqu'il est simplement mécanique. Où je vous lis ce texte, enfin, de Francis Bacon, qui est assez éclairant et assez prophétique. « Notre fondation, la maison de Salomon, a pour fin de connaître les causes et le mouvement secret des choses, et de reculer les bornes de l'empire humain en vue de réaliser toutes les choses possibles. Magnalia naturae, praeci pue quod ad usus humanos. Merveilles naturelles, surtout celles qui sont destinées à l'usage humain. Prolonger la vie. Rendre à quelques degrés la jeunesse. Retarder le vieillissement. Guérir des maladies réputées incurables. Amoindrir la douleur, des purges plus aisées et moins répugnantes, augmenter la force et l'activité, augmenter la capacité à supporter la torture ou la douleur, transformer le tempérament, l'embonpoint et la maigreur, transformer la stature, transformer les traits, augmenter et élever le cérébral, métamorphose d'un corps dans un autre, fabriquer de nouvelles espèces, transplanter une espèce dans une autre, instrument de destruction, comme ceux de la guerre et le poison, rendre les esprits joyeux et les mettre dans une bonne disposition, puissance de l'imagination sur le corps ou sur le corps d'un autre, accélérer le temps en ce qui concerne une maturation, accélérer le temps en ce qui concerne les clarifications, accélérer la putréfaction, accélérer la décoction, accélérer la germination, fabriquer pour la terre des composts comme ce qui se passe dans la solide des composts riches, force de l'atmosphère et naissance des tempêtes, transformation radicale comme ce qui se passe dans la solidification, le ramollissement, etc. Transformer des substances acides et aqueuses en substances grasses et onctueuses. Produire des aliments nouveaux à partir de substances qui ne sont pas actuellement utilisées. Fabriquer de nouveaux fils pour l'habillement et de nouveaux matériaux à l'instar du papier, du verre, etc. Prédiction naturelle, illusion des sens, de plus grands plaisirs pour les sens, minéraux artificiels et ciments. Ce n'était qu'un rêve et un fantasme au XVIIe siècle. Mais cela se réalise aujourd'hui. Le projet transhumaniste met en péril l'humain. D'un point de vue chrétien, il détruit l'idée de créature finie, parce que dépendant de son créateur, mortel, à qui est promise le salut du ciel, il est transgression de notre propre condition et remet en cause la possibilité même de la dignité de la vie sur terre. Que serait un homme immortel? Que deviendraient les générations? La famille? Que deviendrait son rapport au temps, son rapport à la mort? Hans Jonas formulait déjà cette mise en garde dans l'usage humain de la technique. C'est dans un texte qui s'appelle « Le principe de responsabilité ». Un impératif adapté au nouveau type de l'agir humain et qui s'adresse au nouveau type de sujet de l'agir s'énoncerait à peu près ainsi. Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Ou pour l'exprimer négativement, agis de façon que les effets de ton action ne soient pas destructeurs pour la possibilité d'une telle vie, ou simplement ne compromets pas les conditions pour la survie indéfinie de la vie sur Terre. Oui, mais si les vies sont prolongées, qu'est-ce qui adviendra des générations futures? Que fera-t-on avec le surpeuplement de la planète? Qu'est-ce que va devenir la Terre? Est-ce que une vie authentiquement digne et humainement possible sera encore possible? Voilà les questions que nous pose en particulier le transhumanisme. Alors que la pensée chrétienne de l'homme est, même dans son état pécamineux, une pensée de l'harmonie. Tous ces courants actuels mettent à mal la dignité de la personne humaine et son rapport avec l'environnement, sans parler de son rapport avec Dieu. D'un côté, l'on refuse le donné biologique pour le rapporter entièrement à une construction sociale. De l'autre, on le réduit à un pur donné biologique et naturaliste pour n'en faire qu'un animal parmi d'autres ou pour augmenter ses capacités vitales et physiques. L'anthropologie chrétienne devient alors une urgence. Non seulement la vie de l'homme sur terre est compromise, mais encore sa destination surnaturelle, c'est-à-dire la seule optique qui pour un chrétien importe, le salut et la béatitude. Alors j'aimerais, dans les cours qui vont suivre, vous expliquer l'importance qu'il y a à penser l'homme d'un point de vue chrétien, non seulement évidemment pour être un petit peu intempestif dans nos temps actuels, mais aussi pour vous montrer que l'anthropologie chrétienne est une anthropologie de l'homme intégral, de l'homme dès sa naissance jusqu'à sa mort, en passant par son historicité propre et en allant jusqu'à sa destination, qui est une destination surnaturelle. Il est appelé à participer de la vie même de Dieu. Il est appelé à voir Dieu. Alors, dans tous les cours que nous allons faire, nous allons aborder plusieurs thèmes de cette anthropologie, en commençant bien entendu par la création, qui sera le cours suivant. Je vous retrouve pour un rendez-vous sur Zoom. J'espère que vous aurez pu écouter ce fichier audio et potasser, travailler par vous-même les textes pour que nous puissions davantage en parler. Je vous dis à la prochaine fois et je vous dis au revoir.